Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Beniada.
Le général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, invité du podcast de l'aviation. Mon général, après un an de crise sanitaire, l'armée de l'air a-t-elle retrouvé un fonctionnement normal dans le cadre de ses différentes missions? Et surtout, quel bilan pour l'opération Résilience?
Le bilan, c'est une armée de l'air et de l'espace et qui a démontré qu'elle pouvait continuer à protéger, à dissuader, à intervenir, aussi bien sur le territoire national qu'en opération. Et cela parce que les armées s'entraînent à travailler dans des contexte particulier, et on peut penser par exemple en particulier au nucléaire, radiologique, biologique et chimique. On a des processus, on a des équipements, on a des formations qui nous permettent de réagir et d'agir. Je pense évidemment à nos équipes NRBC, je pense à notre équipe de CASO, je pense également à tous nos pompiers qui sont des spécialistes dans le domaine notamment du biologique. Ensuite, on a des capacités à évacuer par les airs et on l'a vu pendant cette opération Résilience. Bien évidemment, le C-135 et puis évidemment notre avion de nouvelle génération, le MRTT Phoenix, mais également grâce à l'innovation, à l'agilité de nos mécaniciens et de nos personnels, commandos, pompiers, en lien toujours avec le service de santé des armées, et bien de pouvoir adapter nos autres appareils et puis bien sûr, on a tous dans la tête les images d'hélicoptères de l'armée de l'air à l'espace, d'A400M aussi, avec MEROP, avec cet outil de transport aérien de lourd covidé. On a également, bien évidemment, nos autres avions de transport, le CASA, le C-160, par exemple. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on s'est reposé sur notre organisation, notre armée de l'air à l'espace. Dans les opérations aériennes, il y a un centre de commandement et de contrôle qui est centralisé et qui est dévoué à mettre en musique et à piloter, à diriger ces opérations aériennes. Et depuis la France, on le fait sur le territoire national. Et donc, ces manœuvres aériennes sur le territoire national lors de l'opération Résilience, on s'est beaucoup appuyé sur ce centre national des opérations aériennes. Mais c'est aussi cette capacité à piloter depuis la France, mais des opérations qui sont conduites, par exemple, en Polynésie française, lorsqu'on a mis des A400M ou aux Antilles. On s'est appuyé sur notre concept de base aérienne, qui est notre véritable outil de combat. La gestion de cette crise, elle s'est faite au niveau local. Et donc, on s'est adapté au niveau local. Entre une base aérienne d'Orange, de Saint-Dizier, de Cazaux, de Cognac, il y a des différences. Il y a des différences d'infrastructure, il y a des différences de mission. Eh bien, moi, j'ai pu le voir tout de suite. Début de l'opération Résilience, je suis allé voir mes bases aériennes. La première d'entre elles, c'était Nancy, et j'ai vu un escadron de maintenance aéronautique qui s'était réorganisé pour continuer à préparer des avions pour l'opération en BSS, pour l'opération Barkhane. Voilà. Mais cette organisation, elle était différente de l'organisation à Orange, elle était différente de l'organisation sur Cazaux. Donc ça a très bien fonctionné pour permettre une activité. Alors, au final, pendant cette année, par exemple 2020, l'activité aérienne de l'armée de l'air et de l'espace, en opération, c'est 100%. Pour la PPS, c'est 100%. Pour la posture permanente de sûreté, pour la dissuasion, on a assuré la mission à 100%. La préparation opérationnelle, on a une activité qui a diminué entre 10 et 15%.
Il y a surtout eu, durant cette année de crise, moins d'exercices internationaux et par voie de conséquent, une faible demande de transport militaire.
Le transport notamment, il y avait moins d'exercices internationaux, donc forcément, et moins de possibilités d'aller à l'étranger. Et donc, et comme nous, dans l'armée de l'air, le transport, c'est pas pour l'armée de l'air, mais c'est pour les armées, eh bien donc il y avait moins de missions à réaliser et donc il y a cet ajustement en termes d'activité. Donc en gros, une activité qui a diminué de 10 à 15% en fonction des chasses, transports ou hélicos. Ce sont les relations internationales qui ont le plus été impactées par cette Covid et notamment nos exercices de très haut niveau en Espagne pour le Tactical Leadership Programme ou d'autres grands exercices et on n'a pas pu les réaliser parce qu'il y avait la Covid et donc on ne pouvait pas inviter, recevoir ou se déplacer dans ces grands exercices internationaux. Et donc mon niveau de préparation pour le haut niveau du spectre s'en est trouvé limité. Mais on a quand même réussi à faire Volfa, cet exercice à Mont-de-Marsan. On a réussi à le faire avec des Grecs, avec des Espagnols également. On a fait également un exercice dans les Canaries qui s'appelle Ocean Sky. Et au début de l'année 2021, où la Covid était toujours là, on a fait fin d'année un exercice à dominante des forces aériennes stratégiques, ce déploiement d'avions vers Djibouti. Mais après, on a eu l'opération Skyros, qui à partir de Djibouti, fin de janvier, on a déployé 4 avions Rafale du MRTT et 2 A400M aux EAU. D'abord en Inde, pardon. Ensuite, on est allé aux EAU. Ensuite, on est repassé par l'Égypte pendant 4 jours, où on a fait de l'interopérabilité avec les Égyptiens et bien évidemment leur Rafale. centrale, et ensuite 4 jours en Grèce. Dernière en date, l'exercice Iniokos, énormément d'avions, Rafale, Air, Marine, 2000D, ravitailleur. Donc c'était vraiment là un énorme exercice et qui prouve que l'armée de l'air, dans ce domaine-là, des exercices interalliés au niveau du spectre, ça y est, c'est reparti.
On aurait pu penser que la forte réduction du trafic aérien civil au plus fort de la crise sanitaire aurait eu un impact sur la posture permanente de sûreté, la PPS. Il n'en a visiblement rien été. Pourquoi, général Lavigne ?
Alors elle a très peu baissé parce que d'abord, c'est une posture permanente. Et quand on dit permanent, mais qu'il y ait de l'activité ou pas, on est en alerte. Donc vous avez en alerte, vous avez des radars. Dans la posture permanente de sûreté, vous avez le radar, celui qui détecte, puisqu'on doit détecter, identifier et agir. Nos radars travaillent. Ensuite, on a des plots, hélicoptères ou d'avions de chasse qui assurent la protection une fois que c'est détecté. Et donc là, la PPS veille toujours. Ensuite, on a eu pendant cette année 2020, et on continue d'en avoir, des avions à long rayon d'action russes qui viennent du nord, qui passent d'abord par la Norvège, ensuite les îles britanniques et pour certains qui descendent au large de l'Atlantique, au large de la France sur notre façade atlantique et puis qui peuvent même continuer jusqu'en Espagne. Et bien donc c'est cela, Covid ou pas, il y a toujours de l'activité, il y a même plus d'activité. Donc on a nos moyens dont je viens de parler, mais on a également nos AWACS qui sont en alerte et nos ravitailleurs parce que lorsque ça décolle au nord de l'Europe et que ça passe par la Norvège, on ne connaît pas leur plan de vol. On a des alertes et on les met en vol avec nos ravitailleurs. Et donc, évidemment, on a une certaine activité. Après, l'activité aérienne civile, elle a certes beaucoup diminué au tout début, mais ensuite, elle a repris avec des avions qui peuvent perdre la communication. Ensuite, il faut savoir que la France est le deuxième pays au monde en nombre de pilotes privés et d'aviation de loisirs. Et évidemment, lorsqu'il y a déconfinement, eh bien, il y a vol. La posture permanente de sûreté participe également à l'assistance en vol. On a fait 10 assistants en 2020 en vol. On a détecté 560 situations anormales et on a fait 350 interventions de chasse ou d'hélicoptère durant cette année 2020. Donc, ce qui est relativement important par rapport aux autres années. Après, il faut voir également qu'on fait un effort à l'heure actuelle aussi sur les drones et la lutte anti-drones, et c'est quand même quelque chose qui monte en puissance. Alors évidemment, on a eu moins d'événements majeurs, mais il y a eu toujours le 14 juillet. Et bien évidemment, on travaille pour prendre en compte, notamment, il y a une feuille de route qui doit nous amener aux grands événements que seront les Jeux Olympiques en 2024, mais la Coupe du Monde de rugby en 2023, pour avoir la capacité à lutter contre ces drones. Et l'année 2020, alors pas en France, mais dans le monde, on a vu que l'emploi des drones est de plus en plus important. Si je prends l'exemple de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, par exemple, ou voire dans des situations de conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Karabakh.
Vous venez de l'évoquer, la menace terroriste à l'aide de drones est aujourd'hui plus importante et comment la prendre en compte ?
Alors, elle est de plus en plus importante. Alors, je pense qu'il y a deux types de drones. Il y a le drone, on va dire, de taille très petite, le mini-drone, qui peut être utilisé pour interrompre du trafic, par exemple, du trafic d'un aéroport, et avec des conséquences économiques très importantes, même d'abord de sécurité aérienne, et puis économique très importante. Et puis, il y a le drone d'une taille un peu plus importante, on va dire entre 2-3 mètres. Et là, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense même au Karabakh, avec des drones qui peuvent voler entre 10 et 14 000 pieds, qui ont des charges militaires, même si les petits drones ont des charges militaires également, mais qui sont tout petits. Et ça, on l'a vu beaucoup en emploi pendant l'opération Chamal, par exemple. Mais quelle parade par rapport à ça ? Eh bien, on a d'abord, si je prends un retour d'expérience de ce qui s'est passé l'année dernière dans le Haut-Karabakh, je pense qu'on peut dire que sans défense aérienne, de défense solaire, soit de défense aérienne classique, eh bien, on voit bien que l'utilisation du point haut est une des caractéristiques de la supériorité que vous avez. Il est nécessaire, face à ce type de menace, d'avoir des défenses soit RR, soit des défenses solaires. Sachant que, bien évidemment, dans ces types de conflits, et on le voit par exemple également en Syrie, ce n'est pas que le drone tout seul. Il y a évidemment du brouillage derrière, il y a évidemment de la guerre électronique derrière. Voilà, c'est une combinaison d'effets qui rend possible l'utilisation de ces moyens-là. Et si vous n'avez pas de défense aérienne, eh bien vous subissez. Et c'est ce qui s'est passé lors du conflit dans le Haut-Karabakh. Ce qui est important également, et c'est ce qu'on travaille de plus en plus, c'est certes, d'abord, c'est augmenter notre niveau de connaissance de notre situation aérienne. Et dans la loi de programmation militaire, On a cette loi de programmation militaire nous permet d'avoir de nouveaux équipements, notamment plus de radars basse altitude et moyenne altitude, des modernisations de certains radars. Et ce qui est important également, c'est d'avoir la connexion entre tous ces radars militaires, mais également civils. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec la DGAC et puis les aéroports, parce que les aéroports ont aussi des radars pour compléter la situation. Et toujours dans cette organisation, on fusionne l'ensemble de ces informations-là au CDAOA, au CNOA, donc au Centre National des Opérations Aériennes, qui permettent d'avoir la vision globale de notre espace aérien. Je pense que la grande évolution, c'est la compétition, c'est le déni d'accès, c'est la réduction de la liberté d'action. La Méditerranée orientale et la Syrie en est un exemple, un laboratoire de ce déni d'accès, de cette réduction de la liberté d'action. Et là, là il faut y faire face. C'est quoi un déni d'accès? C'est-à-dire que vous vous opposez à la pénétration de vecteurs aériens dans votre zone. Alors, vous pouvez le faire avec une défense solaire de plus en plus dure, de plus en plus dense, et puis vous pouvez le faire avec des avions de combat et des systèmes de détection et de contrôle aéroportée, et puis évidemment si vous liez les deux, le déni d'accès est encore plus complexe. Voilà. Donc si vous avez et défense solaire et chasseur et moyen aérien, ça devient de plus en plus compliqué de pénétrer, et puis après vous pouvez avoir de la guerre électronique, du brouillage, etc. etc. C'est la véritable évolution qui nous fait penser bien évidemment à la haute intensité. Il faut conserver cette supériorité opérationnelle. Et comment conserve-t-on cette supériorité opérationnelle? Il y a d'abord d'avoir un glaive qui soit plus long que l'autre, qui soit plus fort que l'autre. Et on pense bien sûr au Rafale, dans sa nouvelle version, F3R, qui permet d'emporter le Météor, qui nous donne une allonge supérieure à celle de nos adversaires. Il y a également la précision. Donc là, on a un pote Telios qui est beaucoup plus précis et qui permet beaucoup plus de choses pour nos armements air-sol. Bref, une aviation de combat qui doit conserver cette supériorité opérationnelle.
Le général Philippe Laving, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, que nous retrouverons la semaine prochaine pour parler de haute intensité, de ce que prévoit la loi de programmation militaire en cas de conflit dur et de la surveillance de l'espace.